Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi, vendredi soir, pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, on va, comme chaque semaine, survoler la paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés, et nous arrivons à présent à une nouvelle, un nouveau chapitre qui s'appelle Ekel. Et on y évoque notamment la question de la Yirat Shamaim, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Donc on a tous compris que la crainte de Dieu est supposée être le premier commandement, certains même, c'est-à-dire la première chose à comprendre, à savoir faire, et même certains disent tout est là. Mais moi, je vais vous poser une question un peu iconoclaste. Si je fais les choses parce que j'ai peur, je les fais. Je veux dire, quelle est la valeur de ce que je fais? Et très franchement, on fait tous des choses parce qu'on a peur. Mais quelle est la matérialité? Quelle est la consistance de je fais quelque chose parce que j'ai peur? Par exemple, on pourrait en donner 10 000 face à la délinquance. Moi, j'adhère pas aux délinquants, j'ai peur d'eux. Je fais, voilà, je bouge pas, je sors pas de ma voiture en cas d'incivilité. Que signifie en fait cette idée de Yirat Shamaim qui va à l'encontre de tout ce que vous nous avez dit, vous, les rabbinim, la semaine passée, sur et tu aimeras Dieu. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir, Rav Eli Lemel, sur cette très très fameuse notion de crainte de Dieu nécessaire dans le service divin?
Oui, tout à fait, Bernard. Vous avez complètement raison. A priori, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre. C'est quoi cette notion d'aimer Dieu, cette notion de craindre Dieu? Comment je peux vous obliger à aimer Dieu? Comment je peux vous obliger à le craindre? Puisque tout ça, ce sont ce qu'on appelle des tzivouyim, des ordres, des mitzvot. Et est-ce qu'on peut nous obliger à ce genre de choses? Donc on va essayer un petit peu de comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, on va se rappeler du contexte. Le contexte, c'est quoi? On est quand même dans le livre de Dvarim. Le livre de Dvarim, rappelons, on l'a déjà dit, c'est le texte dans lequel la Torah nous relate, eh bien, non pas le dialogue, mais toutes ces paroles que Moshe adresse au peuple d'Israël, et qui sont un petit peu toutes ces recommandations, ces rappels à l'ordre qu'il leur fait avant le moment dans lequel il va disparaître. Il se retrouvera donc remonter au ciel, et le peuple d'Israël va se retrouver avec Joshua, et là, il va leur dire un certain nombre de choses. Et donc, dans toutes ces recommandations qu'il leur donne, à un moment, il va leur dire « Va'ata Yisrael ma'ashem alokecha sho'el me'imar ki'im le dira » Et toi, Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi, si ce n'est de le craindre? Alors, tout de suite, Rashi pose la question, il dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Non, Dieu te demande rien, enfin pas grand-chose, quoi, juste de le craindre. Il dit, mais non, mais c'est pas banal. Et le texte nous dit, pour quelqu'un comme Moïse, pour Moïse, c'est banal. Ok, mais est-ce qu'on nous a réglé le problème pour autant? Est-ce qu'on a compris exactement de quoi il s'agit? Alors, on va tout d'abord prendre, si vous le voulez bien, un autre texte. Cet autre texte se livre à Kol Bidei Shamaim Koutmirat Shamaim. Tout provient du ciel, sauf Yirat Shamaim. Et vous, tout à l'heure, vous avez donné cette traduction qui est Yirat, la crainte, c'est la peur. Alors que j'aimerais, si vous le voulez bien, peut-être ouvrir une autre possibilité de traduction, puisque le mot Yirat vient de la racine Roé. Roé, c'est quoi Ya? C'est voir. Au fond, peut-être que Yirat Shamaim, c'est pas la crainte dans le sens qu'on le comprend de manière générale, c'est-à-dire les formes de peur qui nous prend, même si en effet cette notion va être présente, mais en premier lieu, roé. Roé, c'est voir. Voir, c'est être en conscience de la présence d'une réalité en face de soi. Et peut-être que ce que la Torah attend de nous, c'est en premier lieu qu'on soit capable de vivre dans cette conscience de la présence du Créateur à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire se donner les moyens de voir sa présence dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui va être un point de départ et qui appartient totalement à l'individu. Personne ne peut lui donner cette dimension, si ce n'est lui-même. À Kolbide Shamaïm, Dieu, en effet, est à l'origine de tout. Il envoie énormément de choses. Mais cette dimension-là, c'est à moi de l'inscrire ou non à l'intérieur de mon existence. Vous savez que il y a eu le fameux télescope Hubble, et puis maintenant, il y en a un tout nouveau qui a été lancé, et qui se retrouve maintenant en orbite à 1 500 000 km de la Terre, et qui donne des images absolument hallucinantes du cosmos. Et quand vous regardez un petit peu tout ce que les astrophysiciens disent, ils sont éblouis de voir ce qu'ils découvrent, et pour prendre leurs mots, eh bien, c'est comme un grain de sable dans tout ce qu'il y a lieu de découvrir encore. Donc, cet univers, il est colossal, il est immense, les mots nous manquent pour pouvoir décrire ce qu'est véritablement l'univers. Sa dimension qui nous dépasse radicalement, l'univers des trous noirs, est-ce qu'on peut véritablement savoir qu'est-ce que c'est un trou noir? On le connaît en théorie, enfin, on pourrait rester à en parler pendant des heures. Et je trouve d'ailleurs que ce monde de l'astrophysique est absolument exceptionnel parce qu'il nous permet de voir la grandeur du Créateur à travers ce qu'on est en train de découvrir de la grandeur de sa création. Et ça, c'est en effet ce que Dieu nous demande. Ma Hashem Shoel Meima. Dieu, voilà c'est ce qu'il te demande. Il te demande qui il me lira, c'est-à-dire de te donner les moyens de vivre dans la conscience de sa présence. Et évidemment, à ce moment-là, ça change à notre vie. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en permanence dans cet état de conscience, évidemment, vous pensez vos actes de manière totalement différente. Et la notion de yira, qui veut dire la peur, oui, elle est là aussi. Mais non pas, pardonnez-moi l'expression un petit peu bas de gamme que je vais utiliser, la trouille, c'est-à-dire, oulala, je vais me faire punir parce que si c'est cela, eh bien, comme dirait l'autre, soit vous observez le monde et vous voyez que beaucoup de gens dysfonctionnent grâce à Dieu, entre guillemets, tout va bien pour eux. Et au passage, eh bien, c'est pas à travers cela que vous allez pouvoir véritablement vous obliger à faire les choses. Et si c'est une peur qui est là, eh bien, parfois un bon qui pourra nous aider à évacuer cette peur. Non, cette ira, cette peur, c'est tout simplement cette crainte que l'on a de ne pas remplir le rôle qui doit être le nôtre sur Terre. Et ça doit être comme une forme d'aiguillon. Vous savez, lorsque moi je pense à quelque chose, alors la comparaison va vous faire sûrement sourire, mais j'imagine ce qui se passe dans les vestiaires de la finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est France-Croatie ou France-Brésil ou ce que vous voulez, à la mi-temps, avec l'entraîneur qui est là et qui demande à chacun d'être ce qu'il doit être, c'est-à-dire qui pousse chacun de ses joueurs à dire « attention, on est face à quelque chose d'unique ». Il ne faut pas passer à côté de cela. Je ne pense pas qu'ils sont dans une forme de peur et d'angoisse, mais on peut dire qu'il y a ici cette dimension-là, c'est-à-dire de ne pas passer à côté de notre histoire, de ne pas vivre à côté de ce que l'on aurait pu réaliser. Et ça, en effet, c'est cette notion que Dieu demande. « Ma Hashem Shoel Meima, qui il me le dira ?» Alors pour Moshe, oui, c'est quelque chose entre guillemets de facile, traduction, en tout cas tel que je comprends, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, a vécu cette expérience de manière constante dans la relation avec Hachem. Donc pour lui, cette vision de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, fait partie d'une réalité qui s'est inscrite à l'intérieur de sa vie au quotidien. Pour nous, eh bien, il faut réapprendre à poser un regard sur le monde qui est autour de nous. Pour nous, il faut justement découvrir la beauté, la dimension merveilleuse, extraordinaire de l'univers dans lequel on se trouve, de redécouvrir cette même dimension à l'intérieur de la Torah. Ça, c'est en effet ce qu'on se doit de développer, de construire et de renforcer. Parce que ce sont des notions que l'on doit renforcer, ce sont des notions que l'on doit développer, ce sont des notions sur lesquelles on doit travailler. Et puis évidemment, à côté, il y a cette notion de Ahavat Hashem, la notion de l'amour de Dieu. Alors, cette mitzvah que l'on a d'aimer Dieu, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est d'observer tout ce qu'il nous apporte. Et lorsque on prend conscience de tout ce que Dieu apporte à un individu, eh bien, à un moment, on arrive à l'aimer. Et c'est un petit peu comme dans le monde des relations humaines, quand vous voyez que vous êtes face à une personne qui a cette préoccupation de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir véritablement construire votre vie, vous l'aimez. D'ailleurs, on le voit bien que les enfants qui aimeront le plus leurs parents, ce sont les enfants qui réaliseront à un moment qu'eux-mêmes, lorsque leurs parents leur ont interdit, eh bien, au fond, c'était pour leur bien réellement. J'aime bien dire cette phrase que les enfants, nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés, et ils ne pas nous aimer pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Lorsqu'un parent donne lui des ordres, non pas pour montrer qu'il est le chef, mais parce qu'il sait très bien que c'est quelque chose qui est bon pour l'enfant. Lorsque l'enfant est petit, bien sûr, il se rebiffe, il n'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il veut suivre son désir immédiat. Mais au bout d'un moment, il réalise qu'au fond, c'était sans doute le plus beau cadeau que ses parents puissent lui faire. Eh bien, c'est ça cette notion de Ahavat Hashem, c'est-à-dire de réussir à prendre la mesure ô combien Hashem, en nous donnant la Torah et les Mitzvot, nous a donné les moyens de vivre une vie exceptionnelle dans ce monde-ci et dans le monde futur. Alors, voilà un petit peu c'est cette dimension-là que l'on se doit de développer, la notion de Yirat Hashem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retrouve dans une paracha dans laquelle, qui commence par le Haya Ekev Tishmoun, dans laquelle j'ai dit, et ça sera Ekev Tishmoun. Ekev, c'est quoi ? C'est le talon. Et en effet, disons maître, il s'agit en effet des commandements que l'on a l'habitude d'écraser avec les pieds. C'est intéressant de voir que cette notion de Yirat Shamayim, de crainte, de conscience de la présence d'Hachem, on la retrouve à l'intérieur d'un texte dans lequel la Torah nous dit, lorsque vous apprendrez à faire attention aux mitzvot, que l'on n'a pas trop l'habitude de respecter parce qu'elles nous semblent plus importantes, parce qu'on n'a pas envie de s'inscrire dans le monde du détail, parce que, au fond, ça va, c'est pas si grave, c'est pas si important, si ça, justement, Yirat Shamayim, la conscience d'Hachem, la conscience de sa présence, la crainte, puisque vous l'avez dit, de passer à côté de quelque chose, c'est ça qui nous donne aussi la force, de comprendre l'importance de ces mitzvot qui parfois ne nous paraissent pas si importantes, de ces détails qu'on aimerait mettre de côté, mais qui au contraire sont fondamentaux, sont justement le lieu dans lequel on se révèle l'importance que représente la parole d'Hachem dans l'intérieur de notre vie. Voilà en effet un travail auquel la Torah nous invite, voilà quelque chose que l'on se doit de développer au quotidien. Et évidemment, à partir de cela, les choses changent parce que vivre dans cet état de conscience donne une forme de sérénité intérieure que l'on ne peut même pas imaginer. Regardez d'ailleurs le propre de tous les grands du peuple d'Israël, c'est justement cette Yirat Shamayim extraordinaire qui est la leur, et qui va de pair avec un quotidien dans lequel on est sans, dans un état de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité. Vous ne verrez jamais les maîtres du peuple d'Israël être dans des stress, dans des angoisses, dans des peurs. Pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, ceux qui veulent faire bouger les gens en leur faisant peur, en les angoissant, peut-être ont oublié que ce n'est peut-être pas nécessairement ça la Yirat Shamayim, et que tant que la personne est prête à subir ce type de parole, ça fonctionnera. Le jour où elle n'est plus prête à les subir, brusquement, tout change. Voilà tout un travail que l'on se devrait essayer en tout cas de développer au quotidien.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom au Mevorach.
Rav Mordechai Biton, on continue l'étude de notre paracha et dans les reproches adressés par Moshe Rabbeinu d'Israël. Les Chachamim ont décelé comme presque un manque, quoi, une impression comme si... Les Juifs ne méritaient pas vraiment cette terre d'Israël, et peut-être même que c'est plus en raison de la décadence de l'autre côté qu'ils ont un sroute sur cette terre. C'est très étonnant parce que c'est quand même la base de toute la Torah, quoi, Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'en disent en fait les Chachamim?
Oui, enfin, la base de la Torah, c'est la Torah, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que là Moshe Rabbeinu leur dit, chapitre 9, verset 4, il va leur dire sur plusieurs versets, hein, « Altomar, ne dis pas dans ton cœur que Hachem veut repousser ses peuples de devant toi, parce que, Betzit Kati, parce que toi, tu es quelqu'un de tzaddik, parce que toi, le peuple juif, toi, le juif, tu es tzaddik, Et donc Hachem m'a amené à hériter de cette terre. Non, pas du tout. C'est par la riche houte, c'est par la méchanceté et l'impiété de ses peuples que cette terre vous est donnée. Et il continue encore le passouk suivant. Ce n'est pas parce que toi tu es tzadik, l'obétit katra, et ce n'est pas non plus dû à la droiture de ton cœur que tu vas hériter de leur terre. Non, non, pas du tout. Et à nouveau, la Torah dit, c'est par la riche houte, par l'impiété, par la méchanceté de ses peuples. Pourquoi ? Parce qu'Hachem a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov de donner à leurs descendants la terre d'Israël. Et encore, ça continue au verset 6. Et tu sauras que ce n'est pas non plus parce que Betzit Katra, par ta tzidkout, parce que tu es un tzadik, que Hachem te donne cette terre. Pas du tout, parce que tu es un peuple qui a la nuque raide. Rappelle-toi bien combien de fois tu as énervé Hachem. Bon, on lit ça, et on se dit, quelle est notre place finalement dans le projet ici ? Quelle est la place de Am Israël ? Si finalement, Am Israël va recevoir la... Et va recevoir Eretz Israël et va rentrer en Eretz Israël, parce que finalement les sept peuples qui sont là-bas font des korbanot, des sacrifices pardon, d'enfants, parce que ce sont des gens qui esclavagisent des populations entières, parce que ce sont des gens qui représentent l'origine même de toutes les formes les plus élaborées et les plus horribles d'Avodazara, d'idolâtrie, de débauche sexuelle, de violence, de meurtre, etc. Bon. Donc finalement, et on va les mettre dehors parce qu'ils ne méritent pas Eretz Israël, c'est clair, mais est-ce que finalement nous on est mieux ? C'est la question qui est posée ici. Alors le Or HaChaim HaKadosh va dire la chose suivante. Vous voyez, rappelez-vous bien qu'au chapitre 4, verset 4, au début des Devarim, au début du Deutéronome, lorsque Moshe Rabbeinu conclut la première partie des réprimandes qu'il adresse à Israël, il leur dit « Vatem Adevikim Bashem » vous êtes Davouk, vous êtes en symbiose avec Hachem, et Elokechem votre Dieu. « Vatem Adevikim Bashem Chaim Kullechem Ayom » Et donc, vous allez vivre. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit en fait la chose suivante. Il a dit, rappelez-vous bien d'une chose, c'est que si vous commencez à penser que vous méritez ce que vous allez recevoir, vous allez d'emblée stopper votre évolution dans la vie. Jusqu'à la dernière minute, un homme ne peut pas dire que ce qu'il reçoit, il le reçoit parce qu'il est tzadik, parce qu'il est juste, parce qu'il le mérite, parce que ceci, parce que cela, parce que sinon, d'une certaine manière, il est mort. Et on a un très très bel exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui au moment où part, va dire à ses élèves, ses élèves le voient pleurer, et lui va leur dire, mais je vais vous expliquer pourquoi je pleure. Parce que si on m'amenait devant un roi de chair et de sang, qui lui ne tue que dans ce monde, mais pas dans les deux mondes, eh ben, j'aurais pas eu peur, mais l'emmène devant le roi des rois. Et cette situation, il l'a connue, Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que pendant qu'on était en train de l'emmener devant Vespasien, on l'amenait devant un roi de chair et de sang qui pouvait le tuer ou qui pouvait le laisser vivre. Il dit, là, on m'amène, et en plus, il dit à ses élèves, j'ai devant moi deux chemins. Un bon chemin qui m'amène vers le paradis, en fait, vers le Galédel, et un mauvais chemin qui m'amène vers le Guéhinnom, vers l'enfer, si j'ai fait des mauvais choix. Cette situation, il l'a connue aussi, parce que quand il s'est retrouvé devant Vespasien et qu'il a dit à Vespasien, donne-moi la ville de Yavné pour que j'y mette les chachamim et les sages pour qu'on étudie la Torah, il ne savait pas si c'était le bon choix. Peut-être qu'il aurait mieux fait de demander le Beth Amikdash. Et lui-même, il n'était pas sûr d'avoir demandé la bonne chose. Jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il n'était pas certain d'avoir complètement demandé ce qu'il fallait demander. Mais ce qu'il est en train de leur dire, c'est plus profond. Il est en train de leur dire que si quelqu'un fait son espède, son oraison funèbre avant de mourir, c'est qu'il est déjà mort. Si quelqu'un est déjà capable de dire avant de mourir ses forces, sa grandeur, sa magnificence, ses réussites, c'est qu'il est déjà mort. Et là, c'est ce que Moshe Rabbeinu va leur dire. Il va leur dire la chose suivante. Il va leur dire, sachez que je vous ai dit au départ, vous êtes collés à Hachem. Vous allez vivre, vous avez en vous la charge spirituelle nécessaire pour vivre dans ce monde-ci, dans le monde futur. Mais sachez qu'il y a un certain nombre de manquements dans votre attitude, individuelle ou collective, qui font que vous êtes en danger. Et vous recevez Eretz Israël non pas parce que vous êtes des gens parfaits, mais parce que vous êtes des gens à parfaire. Et voilà ce que vous avez fait de mal. Vous avez fait le veau d'or, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, etc. Mais vous êtes des gens qui devaient travailler. Si vous l'oubliez, alors en vérité, vous valez encore moins que ces peuples qui sont là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que même ici, la comparaison entre des peuples idolâtres et qui tuent des enfants, qui se livrent au culte de Moloch, on tuait des enfants, et Am Israël, c'est une comparaison qui ne tient pas. Mais l'Orachem Kadosh, il dit, mais c'est bizarre, parce qu'il y a quand même une tzidkout, il y a quand même quelque chose de grand dans Am Israël. En vérité, l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est de dire, Si vous oubliez la charge de travail qui est la vôtre et la charge de travail qui incombe à chacun d'entre nous et à vous tous en tant que peuple, si vous venez en Eretz Israël, si vous l'oubliez, et vous passez à côté. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce passage-là. Et c'est finalement le thème central de la parashat Ekev qui démarre sur ce fameux mot « Vaya Ekev Tishmeun ». si vous écoutez les préceptes que la Torah veut vous donner, en utilisant le mot talon, et Rashi explique que la référence au talon fait référence à ces mitzvot que finalement on méprise. Et l'idée, elle est toujours la même, c'est, les commentateurs vont développer cette idée, c'est de se dire que finalement le juif a du travail. Avec des mitzvot grandioses ou des mitzvot qui lui paraissent plus banales, le juif a des choses à réaliser, il a du travail. C'est le thème qui traverse la parasha de Vayikra, c'est finalement le travail que chacun d'entre nous a fourni, que le peuple a fourni en tant que peuple. Et donc c'est cette charge de travail qui est en fait sa carte d'identité. Voilà, le juif, c'est quelqu'un qui considère qu'il a toujours un travail à accomplir et il n'en termine jamais, comme nos chachamim nous disent, « Adzibula batraita » jusqu'à la dernier coup de pelle quand on enterre quelqu'un. Et en quelque sorte, et ben, il a encore des choses à faire. Et ça, c'est fondamental. L'homme, il est mehaler. C'est quelqu'un qui va. Ce n'est pas un ange. Il n'est pas parmi les omdim. Il n'est pas parmi ceux qui se tiennent debout comme les anges. Il est dans un mouvement. Il monte, il descend. Il se trompe, il réussit. Il a des doutes. Il ne sait pas s'il a toujours choisi le bon chemin. Mais il travaille et il avance. Ça, c'est fondamental. C'est la thématique qui travaille à travers Parashat Ekev. Voilà. Shabbat shalom.
Amor Dechai. Je crois que j'ai entendu, mais c'est tellement osé que si je me plante complètement, vous me corrigez évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Eretz Kenan dans la Torah? Pourquoi il n'y a pas marqué, je ne sais pas, Israël, Eretz Israël? Mais on revient tellement sur Eretz Kenan. Alors, je dis, hein, c'est osé, mais j'ai entendu ça. Parce qu'en fait, le juif, il doit toujours savoir que c'est à acquérir. Ce n'est pas acquis. Donc c'est Eretz Kenan, c'est ça?
Kenan, non, ça fait référence au mot Achna, soumission. Ça veut dire que c'est une terre dans laquelle, quand on passe l'espace aérien, il faut apprendre à se soumettre à Hachem. Il y a beaucoup de Français qui l'oublient d'ailleurs.
Je vous rassure, ils l'oublient en France aussi.
Oui, c'est pas partout. Non, il ne faut pas oublier. C'est Eretz Kenan, c'est Eretz Achna. C'est un endroit où il faut baisser la tête devant Hachem et savoir que c'est lui qui gère et en direct, et personne d'autre. Et ceux qui l'oublient, en général, se le font rappeler assez bruyamment, même aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que Eretz s'appelle Eretz Kenan. Il y a une composante fondamentale dans l'identité juive qui s'exprime en Eretz Israël, qui est d'accepter la propriété de cette terre. Le vrai propriétaire, c'est Hachem. Et personne d'autre. Même pas les Palestiniens. Non,
Mais Dieu est sur tout le monde, donc c'est pas un blasphème. Rav Mordechai Biton, à Jérusalem, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Rav Gué, vous voulez vous intéresser, vous, à un point très particulier de notre paracha, c'est celui de la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle est évoquée par deux fois, en fait, dans notre texte, dans notre chapitre, mais aussi parce que c'est justement, précisément de cette paracha, Ekev, qu'on apprend qu'il faut faire 100 brachot par jour. Et je crois me souvenir que par exemple, Rav Ovadia Yosef, il y tenait beaucoup, il disait « Faites attention, hein, le Shabbat, de ne pas en faire moins. » Donc, quelle est l'importance de cette notion très juive, qui est la bénédiction?
Effectivement. D'abord, je voulais citer une Gemara dans Menachot, page 43, au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait « Un homme a l'obligation de faire 100 bénédictions chaque jour. » Et on apprend d'un verset dans la paracha, de la taille Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, te demande? Ki im le yira, si ce n'est le craindre. Donc Dieu nous demande de le craindre, et nos Chachamim nous disent, Atikra Ma, ne dit pas Ma, le mot Ma qui s'écrit Mem He, mais dit Mea, c'est-à-dire 100. Donc Hashem, qu'est-ce qu'il te demande? 100. 100, c'est 100 bénédictions quotidiennes. Et ces 100 conditions quotidiennes sont attachées à la notion de la guira, de la crainte de Dieu, parce que lorsqu'on fait une bénédiction, on dit Eloquenu, notre Dieu, Melech Haolam, roi du monde. Et par exemple, on dit Boré Periaet, il a créé le fruit de l'arbre. On montre bien qu'on reconnaît que tout ce qu'il y a sur terre et tout profit que nous prenons sur terre, nous le remercions Dieu de nous avoir donné la possibilité d'en profiter, de nous avoir créé ce fruit. Pour prendre l'exemple du fruit. Mais à chaque fois, on rappelle l'existence de Dieu, sa présence, son influence dans le monde. Donc ça amène la Yirat Shamayim, la crainte. On sait aussi que dans la paracha, comme je parlais de deux occurrences, la deuxième fois, c'est Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, ou verarta. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras. Et une mitzvah, une obligation, chaque fois que l'on prend du pain, donc de faire une bénédiction, de faire notre birkat Amazon, qui est une mitzvah de la Torah, qui est une des rares brachot qui sont mina Torah. Les autres brachot et sans bénédiction sont instaurées par nos sages, et c'est parce qu'elles sont instaurées par nos sages qu'elles sont moins importantes. Et comme vous l'avez rappelé, le Shabbat, on a peut-être un déficit de bénédiction parce que chaque jour on dit trois shmoné esré. En fait, c'est 3 fois 19 bénédictions dans la prière que l'on fait à voix basse, ce qu'on appelle la Shmoné Esré ou la Amida. Et donc, comme il y en a une Amida beaucoup plus courte, le Shabbat, qui ne fait que 7 bénédictions, on a un carence de brachot. C'est pour ça qu'on nous encourage, le Shabbat, de multiplier les bénédictions, par exemple au kiddush du Shabbat matin. Certaines personnes, après avoir fait le kiddush du vendredi soir, font quelques bénédictions avant de faire Netilat Yadayim et Moti. En tout cas, on essaye de trouver l'occasion de dire finalement ces 100 bénédictions quotidiennes. Alors, ce que je voudrais ici, c'est évidemment vous rappeler l'importance de ces bénédictions. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bénédictions, puisque le fait de bénir ouvre les portes du ciel et influence la bénédiction dans le monde. On a tous besoin de beaucoup de bénédictions. Mais je voudrais surtout vous rappeler et vous enseigner une histoire très intéressante sur une des bénédictions qu'on dit souvent, c'est la bracha de Asher Yatsar. Lorsqu'on sort des toilettes, on fait une bénédiction assez longue dans laquelle on remercie Hachem de nous avoir créés avec des membres. Donc on a des différents organes, on va dire d'os, péton par organe. Certains sont creux, certains sont ouverts. Mais Hachem en fait en sorte que ce corps, notre corps, il fonctionne. Et lorsqu'on va aux toilettes, c'est l'occasion de se le rappeler, mais c'est aussi l'occasion de se dire que c'est extraordinaire d'être en bonne santé, en fait. Et de remercier Hachem de nous préserver en bonne santé. On a tous besoin d'être en bonne santé. Mais il y a malheureusement des gens qui ne le sont plus, ne sont pas en bonne santé. Je vais vous raconter justement l'histoire d'une de ces personnes, une personne assez âgée, qui a été hospitalisée dans un hôpital à Bnei Brak, appelé Mayane HaYeshua. Cet hôpital est un hôpital très particulier, on y respecte la halakha, il a bas des offices, et tout ce qui est décidé là-bas est décidé selon les avis des sages, des chachamim. Évidemment, les médecins, mais les médecins prennent conseil aussi avec les rabbanim. Et donc l'histoire de ce monsieur, assez âgé, il y a un problème aux reins. Les reins ne fonctionnent pratiquement plus, voire plus du tout. Les médecins sont extrêmement pessimistes. Ils pensent qu'il n'en a que quelques jours à vivre. Et donc, que se passe-t-il dans ces cas-là? Dans cet hôpital, ils avertissent leurs patients ou la famille de leurs patients que, vu que la médecine n'a absolument aucune solution, il faudrait qu'ils s'adressent à des autorités, comme les autorités rabbiniques, pour trouver des moyens de faire des prières, des bénédictions, des actions pour obtenir peut-être une guérison inespérée, miraculeuse. Et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'un docteur appelle des patients pour leur dire il y a un autre moyen que la médecine.
En tout cas, pas très rassurant.
C'est dans cet hôpital, et les directives sont données par un certain Rabbi Yitzhak Zilberstein, qui est un monsieur exceptionnel, dont il faudrait qu'on en parle une autre fois plus longuement. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils disent, on ne vous connaît pas, vous, la famille, mais sachez que votre père, il est vraiment dans une situation désespérée. S'il vous plaît, faites quelque chose. Alors, la personne qui est au bout du fil, c'est pas quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelqu'un qui est un envoyé du Hadour de Bel. Vous savez, la Chassidoute de Bel, à Jérusalem, très grande Chassidoute, ils ont un très très beau Beit HaKnesset, d'ailleurs, que je vous invite à visiter, magnifique. Et il y a un rabbi qui s'appelle le Rabbi de Bel, Rav Rokeach, qui est un personnage très important, et ce monsieur, ce Rav, leur donne le conseil suivant. Il dit, voilà, votre père est dans une situation très difficile, je vous conseille de motiver des personnes qui ne disent pas encore la bénédiction d'Asher Yatsar, donc des personnes non pratiquantes, de les motiver pour la guérison de votre père, de commencer simplement de commencer à dire ces bénédictions. Même s'ils ne font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, mais qu'ils fassent la bénédiction en sortant des toilettes. Alors, et ça tombe très bien parce que ce monsieur-là, qui a donc un proche malade, il s'occupe d'un mouvement de Baalei Tshuva. Vous savez, les chassidim, on pense souvent qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils sont un peu enfermés, c'est pas vrai. La chassidou de Bel, par exemple, elle a une grande organisation de kirouv, où ils essayent de motiver des gens qui ne sont pas religieux à le devenir en leur proposant différentes activités. Justement, ce week-end-là, ce Shabbat, vendredi Shabbat, ils ont organisé un Shabbat pour des jeunes filles qui ne sont pas pratiquantes, et dans le programme, il y a visite du Kotel vendredi soir. Alors devant le Kotel, elles sont déjà un peu émues, on leur explique que le Kotel, les prières, etc. Il leur demande, voilà, il dit, voilà, j'ai chez mon père, il est très malade, les médecins sont désespérés, s'il vous plaît, mesdemoiselles, faites-moi plaisir, faites un geste, prenez sur vous de dire la bénédiction de Hacha Yassar. Alors les jeunes filles sont très émues, et tout en, encore une fois, je vous dis, des personnes qui ne font même pas Shabbat, elles prennent sur elles de faire la bénédiction de Hacha Yassar, en sortant des toilettes. Alors, évidemment, vous avez compris ce qui s'est passé, c'est un vrai miracle médical, c'est qu'effectivement, quelques heures, donc dans le Shabbat, vers la fin du Shabbat, les reins qui ne fonctionnaient pratiquement plus commencent à refonctionner, et vous avez compris, une semaine plus tard, le monsieur est sorti de l'hôpital. Et évidemment, c'est quelque chose qui a énormément touché différents rabbinistes qui ont entendu cette histoire, comme le rabbinistin Karelit et le Rav Steinman, qui ont été très très impressionnés par cette histoire. Et moi, je me suis donné comme mission de vous le transmettre, de le transmettre à tout le monde. On cherche des ségoulottes et on a des fois des familles malades. On se demande quoi faire. Et cette bracha, vous savez, on l'a fait avec beaucoup de kavana lorsqu'on a eu un petit souci de santé. Comme ça m'est arrivé moi-même, un petit souci de santé. Et franchement, je l'ai dit d'une autre façon. D'avoir le souhait d'avoir nos organes qui sont ouverts et qui ne sont pas bouchés. On pense évidemment au cœur. Bon, les artères doivent rester bien ouvertes. Moi, j'ai eu un petit problème à ce sujet il y a 2 ans. Et donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on enfin, il y a un an, et auquel je suis particulièrement sensible. Et je pense que chacun d'entre nous, même si on est en bonne santé, de faire ces bénédictions avec beaucoup de concentration, lentement, c'est quelque chose qui peut, je l'espère, être de nature à nous garantir d'avoir une santé plus longue. Mais même si ce n'est pas le cas, au moins, on remercie HM à chaque instant d'être en bonne santé. Mais l'histoire ne se termine pas là. Cette jeune fille, une des jeunes filles, qui n'avait toujours pas fait tchouva, n'avait toujours pas décidé d'être pratiquante, se retrouve un vendredi soir dans une situation un peu étonnante. C'est-à-dire, elle est dans une boîte de nuit, elle ne fait pas trop Shabbat, vous avez compris. Dans la boîte de nuit, ce n'est pas trop l'ambiance sabbatique. Et à un moment, elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc elle va aux toilettes, et en sortant, elle a pris sur elle de faire Hacha Yassar. Donc elle fait Hacha Yassar avec beaucoup de concentration. Et tout d'un coup, elle se prend, qu'est-ce que je fais là? Je suis en boîte de nuit, un vendredi soir, je transgresse le Shabbat plusieurs fois par minute, et qu'est-ce que je fais? Je fais Hacha Yassar en sortant des toilettes. Oui. Et puis, c'est complètement incapable, je fais dire n'importe quoi, je me contredis, je fais, bon, il faut que je choisisse dans ma vie. La Torah, ça compte pour moi, ou ça ne vaut rien. Il ne faut pas que je ne vive pas dans des contradictions permanentes. Vous savez ce qui se passe, elle prend la décision de tout laisser tomber, tout ce monde dans lequel elle vit, et de faire une vraie teshuva, et de respecter le Shabbat, et d'autres mitzvot aussi, grâce à cette bénédiction d'Hacha Yassar. Vous savez, des fois, une petite chose, si on la prend sérieusement et qu'on la prend en main, elle peut nous amener très loin. Donc aujourd'hui, je voulais essayer de nous réveiller tous, de tous nous sensibiliser à cette magnifique mitzvah, des bénédictions générales, les 100 bénédictions. C'est pas loin, c'est pas si long de faire 100 bénédictions, mais c'est 100 rendez-vous avec Hachem. 100 rendez-vous avec Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. Or, le verset dit, qu'est-ce que Hachem ne te demande, si ce n'est le craindre. Donc c'est un moment privilégié, précieux. Prenons ce temps, le temps de ne pas aller dire les bénédictions trop vite, comme on dit, nous, ça, la jeter de la bouche, de l'avaler ou de la jeter, je ne sais pas comment on les dira. En tout cas, les dire lentement, distinctement, en tout cas certaines bénédictions, si on n'arrive pas à les faire toutes avec ferveur, ça peut apporter tellement de bénédictions dans le monde. Donc allons-y, prenons-nous en main, en Parashat Ekev, l'occasion de se ressaisir, et pour le Birkat Amazon, qui était le ministère de la Torah, le Birkat Amazon qui a malheureusement pas de chance, il est juste après le repas, et après le repas on est souvent, entre guillemets, un peu endormi, fatigué, un peu, on va dire, on est un peu dans d'autres sphères, on n'est pas dans une synagogue. Donc le Birkat Amazon se fait des fois de façon pas très sérieuse. Donc le lire, Birkat Amazon, dans le texte. Et une autre fois, j'espère très bientôt vous raconter d'autres histoires sur Birkat Amazon, qui sont des histoires tellement importantes. J'étais à l'Eshiva de Ponyovitch et le Rav Shach nous disait très souvent, nous motivait à lire le Birkat Amazon dans le texte. Il disait que c'est très important de lire Birkat Amazon dans le texte. Et il disait lui-même qu'un jour, il avait un Birkat Amazon, il manquait quelques mots parce que ça s'était effacé. Il s'est levé alors qu'il était très âgé, il s'est déplacé pour chercher un autre texte pour pouvoir lire les quelques mots manquants dans les mots. sont pour nous rappeler l'importance de lire le Birkat Hamazon dans les mots et surtout de le lire avec sérieux et concentration. Moi, je pense que tout cela peut nous amener plein de bénédictions, on en a tellement besoin, nous tous.
Alors, on prend sur nous pour ce soir, allez, challenge de Rav Gueh. Donc, Asher Yatsar, on pense à le faire, ceux qui n'y pensent pas essayent d'y penser. On essaye de faire les 100 bénédictions. Donc, on peut en rajouter un peu ici. Je crois même que des fois, on peut respirer quelque chose qui sent bon, une fleur, etc. J'ai cru comprendre, je parle sous votre contrôle, Rav, qu'il y a quand même aussi une idée de ne pas exagérer non plus. C'est pas bien non plus. Ça s'appelle Bracha Shenatzricha. Mais voilà, 100, c'est sûr que c'est nécessaire et que c'est un très beau challenge. On se donne tous ça ensemble. J'adore quand on fait ça dans cette émission. Là, sur ce Shabbat...
Je voulais dire autre chose. Je voulais laisser prendre pour moi. Vous connaissez tous des gens malades. On connaît tous des gens qui sont... Pourquoi ne pas se dire, le Asher Yatsar, si je le faisais pas, je le fais, et si je le faisais, mais rapidement, je vais le faire avec plus de concentration en me disant que c'est pour la guérison d'un tel. Ce serait très tellement beau qu'en même temps, on se réveille, on fait les choses un peu mieux, et en plus, on pense aux autres.
Magnifique. Allez, le challenge est pris. On fait ça, c'est joli en plus à faire, c'est pas compliqué. Dire une bracha... ça change pas toute une vie, mais c'est justement exactement Parashat Ekev, ce qu'on laisse sous son talon sans y penser. Rav Gueh, je vous remercie. On a dit quoi ? On a dit Asher Yatsar, Birkat Hamazon dans le texte, et essayer de faire les 120 brachot de cette semaine, de la journée, à partir de ce soir. À partir de ce soir, à partir de demain, 100. 100, c'est sur la journée ou c'est... Non, c'est comme contre les Juifs, quoi, ça... À partir du soir, non,
ah,
non.
Exactement, c'est à partir de ce soir, c'est à partir de coucher du soleil jusqu'à demain soir.
Voilà, allez, c'est entendu. On fait comme ça. Challenge lancé par Rav Gueh sur Radio Shalom. Merci à vous, Rav Gueh. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmorihi, Shav shokat shoymai, Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmorihi, Shav shokat shoymai.